Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot qui nous donne le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vice-président du Cercle et président d'Asterès. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Enrayer la crise de la dette et de la croissance européenne, pourquoi, comment, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le président du Cercle Turgot, Jacques-Henri David, relevait dans l'une de ses récentes chroniques Le Figaro du 27 septembre 2011, trois leviers pour enrayer la crise, c'est-à-dire premièrement crever l'abcès de la dette grecque par une acceptation des créanciers d'une perte de l'ordre de 50% de leurs créances avec en contrepartie des efforts supportables par la société civile grecque. Deuxièmement, se donner les moyens d'éviter le risque de contagion qui couvre par un transfert substantiel des dettes nationales des États de la zone euro, 15 à 20% via les eurobonds. Et enfin, l'envoi par les États de la zone euro d'un signal fort de confiance dans leurs banques en se disant prêts à investir dans leurs banques, manifestement très sous-cotées. Manifestement, cette voie du bon sens tarde à être comprise par les hommes politiques et le cadre institutionnel. L'Europe continue de souffler le froid et le chaud et on a l'impression de se rapprocher jour après jour de l'impensable pour l'une des premières zones économiques mondiales, une crise systémique majeure, partant d'un défaut de paiement de la Grèce, de l'effondrement des bourses, puis par un effet domino dont les risques paraissent loin d'être pleinement appréciés par les chefs d'État, dont l'indécision ne cesse de surprendre, l'émergence d'une situation de dépression telle que la crise de 1929 pourrait apparaître comme un séisme mineur. Comment éviter cette échéance fatale? Est-il encore temps, au moment de Wall Street, on regarde l'Europe comme un actif pourri, très largement plus dangereux selon elle pour l'ensemble du système financier mondial? Partout des voix s'élèvent contre une action qui semble frapper l'Union européenne, de David Cameron à Barack Obama, en passant même par le Premier ministre chinois. On rapporte déjà l'apparition d'un début de panique sur une banque américaine qui, selon la rumeur, était supposée détenir des créances importantes sur les banques européennes. Elle a perdu 11% à une seule séance, c'est dire le degré de confiance dans lequel se situe la zone euro. Oui, alors Nicolas Bouzou, merci d'être avec nous sur notre antenne.
Merci
donc
à vous.
Je reviens sur mon propos. Pensez-vous de votre côté que ce défaut de paiement pudiquement qualifié de coordonné par les financiers, qui ne manque pas d'imagination lorsqu'il s'agit de sémantique, susceptible d'éradiquer à lui seul le cancer qui ronge la Grèce et qui risque de contaminer très largement les autres pays européens?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais je suis certain que c'est absolument nécessaire, si vous voulez. On peut le montrer sur un calcul de comptable, mais comme l'a écrit Jacques-Henri David, d'ailleurs, la Grèce, l'État grec peut rembourser à peu près la moitié de sa dette. Donc en effet, il faut mettre les créanciers autour d'une table. On avait fait ça au début des années 80, quand les pays d'Amérique latine avaient fait défaut. On appelait ça le Club de Londres pour les créanciers privés, le Club de Paris pour les créanciers publics. Il faut refaire à peu près la même chose, puisque de toute façon, il ne sert à rien de demander des efforts supplémentaires, des efforts de rigueur supplémentaires à l'État grec pour rembourser sa dette. Il a déjà fait beaucoup d'efforts de rigueur. Les déficits publics ont été considérablement réduits, alors peut-être pas assez, mais très honnêtement, il me paraît difficile de demander plus aux Grecs. Donc oui, ça, il faut le faire. Ce défaut coordonné, bien évidemment, il faut le faire. Alors maintenant, c'est pas suffisant parce que, comme je ne cesse de le répéter depuis la crise, cette crise n'est pas une crise grecque, mais une crise qui commence par la Grèce. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que, au fond, cette crise, c'est une crise de surendettement des États, c'est-à-dire à la fois d'endettement trop élevé et de croissance économique trop faible. Mais ça, ça touche un grand nombre de pays de la zone euro. Ça touche la Grèce, ça touche l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Ça touche aussi, dans une certaine mesure, la France. Et donc, même si on arrive à régler le cas grec et à mettre les créanciers autour d'une table et à arriver à des dépréciations d'actifs qui, en effet, représentent à peu près ce que la Grèce peut rembourser, hein, c'est-à-dire 50%, de toute façon, on devra quand même mettre fin à cette situation de surendettement, c'est-à-dire réduire nos déficits publics. Ça, c'est une obligation absolue, si vous voulez, qui, évidemment, s'impose à la Grèce, mais qui s'impose aussi à des pays comme la France. Donc, il faut faire les deux. Il faut éteindre l'incendie grec et, en même temps, il faut avoir des politiques beaucoup plus globales de réduction des déficits publics dans nos pays. Et réduction des déficits publics, c'est en grande partie, il faut bien le dire, une réduction des déficits sociaux, Donc c'est la question des retraites, c'est la question de la maladie, c'est la question de la famille, du chômage, etc. Mais tous ces dossiers, on doit les mettre sur la table.
En tout cas, ce que j'entends, Nicolas, c'est que d'un autre côté, on peut dire que la chance de salut pour la Grèce reste tout de même l'Europe. Une sortie de l'euro serait quasi suicidaire ou non ?
Oui, alors il faut vraiment le dire et le répéter. Et moi, j'essaie vraiment de faire de la pédagogie sur ce sujet-là avec un autre vice-président du Cercle Turgot, d'ailleurs, qui est Philippe Dessertine. Et on le dit et on le répète, il faut absolument que la Grèce reste dans la zone euro. Pour deux raisons. Déjà pour une raison politique. Si la Grèce sort de la zone euro, ça veut dire que tout l'édifice que l'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale est susceptible de s'écrouler. Donc c'est un immense retour en arrière. La deuxième chose, qui est plus circonstancielle et plus économique, mais qui est quand même importante, c'est le fait que si la Grèce sort de la zone euro, c'est pour ne pas rembourser sa dette, bien évidemment, et on ouvre la boîte de Pandore des sorties de la zone euro. Et moi, je sais très bien ce qui se passe si la Grèce sort de la zone euro. Si la Grèce sort de la zone euro, les investisseurs vont vendre massivement des obligations espagnoles, portugaises, italiennes, en se disant si la Grèce sortit de la zone euro, ces pays aussi potentiellement peuvent sortir de la zone euro. Et là, on entraîne une flambée des taux d'intérêt sur la dette portugaise, sur la dette espagnole, sur la dette italienne, et finalement, ces pays se retrouvent dans la situation de la Grèce il y a à peu près un an. Donc ce serait absolument catastrophique, dramatique. Il faut sauver la Grèce.
C'est ça. Ça reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore.
Exactement.
Avec des conséquences que personne ne peut aujourd'hui totalement évaluer, mais qui sont incalculables.
Qui sont incalculables et incontrôlables. Et d'ailleurs, on ne les connaît pas bien pour une raison assez simple. Jamais on n'avait pensé possible le fait qu'un pays sorte de la zone euro. Et donc, on n'a pas d'études chiffrées, sérieuses, sur les conséquences que ça aurait, par exemple, pour nos banques.
Donc, alors justement, un dernier mot peut-être sur les banques. Les banques françaises sont particulièrement attaquées. On se demande, d'ailleurs certains commencent à se demander s'il n'y a pas du complot là-dessous.
Oui.
Et vous savez que la dernière rumeur de Wall Street a été concernée une banque américaine selon laquelle elle était supposée détenir des actifs de banques européennes de façon importante. Elle a du coup perdu 11% à une seule séance. C'est dire le degré de confiance dans lequel se situe la zone euro que d'aucuns du côté de Wall Street commencent à considérer comme un actif pourri, encore pire que celui des subprimes. Donc, il y a de l'irrationnel dans tout ça. Les banques françaises cotent à des niveaux qui prennent même pas en compte leur valeur.
Absolument.
De fonds de commerce.
Leurs fonds propres,
leurs fonds de commerce, leur parc immobilier. Et tout ceci dans une hypothèse où, alors totalement irréaliste, me semble-t-il, c'est ce que je crois que vous pensez, que l'État concerné resterait totalement inerte devant un effondrement total de son système bancaire. Est-ce bien réaliste ?
Non mais moi, Jean-Louis, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que, je le dis et je le répète depuis maintenant plusieurs semaines, je ne crois pas du tout à une faillite des banques françaises. Et en effet, même si on avait une banque en difficulté, ce qui peut arriver, on aurait sous une forme ou sous une autre une intervention de l'État français. Pas forcément sous forme de prise de participation, d'ailleurs.
Hein,
ce qu'on appelle un peu vulgairement la nationalisation. Ça ne me paraît pas possible pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que je ne suis pas sûr que l'État français en ait les moyens aujourd'hui. Mais en revanche, on pourrait parfaitement imaginer que l'État français aide à trouver un actionnaire étranger. Si aujourd'hui, vous avez une des trois grandes banques qui est en difficulté, qui a besoin de capitaux, l'État français, à mon avis, pourra assez facilement trouver un actionnaire étranger, par exemple dans un pays émergent, qui pourrait recapitaliser ses banques. Il ne faut pas non plus oublier qu'au moment où nous nous parlons, hein, le problème qui se pose aux banques est plus un problème de liquidité qu'un problème de solvabilité. Et on peut la citer, hein, c'est très exactement ce qui est en train de connaître une banque comme Dexia, qui n'est pas tout à fait française, mais enfin qui est un petit peu française, mais pas seulement. Dexia aujourd'hui, elle a un problème de liquidité, c'est-à-dire un problème de confiance.
Mais est-ce que les banques françaises ou européennes ne vont pas elles-mêmes subir des contagions du fait de la situation d'extrême tension sur Dexia ? Est-ce qu'elles portent beaucoup d'actifs ?
Voilà. Je ne sais pas. Alors, c'est bien pour ça d'ailleurs que tout le monde s'agite autour de Dexia et que les banques centrales interviennent. Et ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que les banques centrales, comme en 2008, jouent parfaitement leur rôle de prêteur en dernier sort. Et moi, je suis vraiment ravi tous les jours de voir l'efficacité et le bon fonctionnement du système des banques centrales. Hein. Et ça vaut pour la Fed, pour la Banque d'Angleterre et pour la Banque Centrale Européenne qui prennent très rapidement des actions coordonnées. Donc ça, c'est très important. Et malgré tout, dans ces domaines-là, même si c'est plus compliqué, même s'ils le font plus maladroitement, les États mènent quand même de bonnes actions. Et là, on voit bien qu'avec Dexia, on va sans doute trouver une solution. Voilà. Donc je pense que tout le monde a bien compris qu'il était absolument nécessaire d'éteindre ce type d'incendie tout de suite, parce que, évidemment, Jean-Louis, vous avez entièrement raison, si on laisse faire, ensuite, on peut avoir des phénomènes de panique, de bankrun, hein, c'est-à-dire des déposants qui viennent retirer leur argent, et ça, par contre, une fois que c'est déclenché, on ne sait pas l'arrêter. Donc il faut vraiment agir très en amont.
Donc la seule issue, c'est celle du courage moral et la
Exactement.
Fin du déni de réalité. où l'on laisse croire Absolument. Que cette crise est autre chose, une crise de solvabilité des États.
Absolument.
Avant d'être d'ailleurs celle des banques, qui sont plutôt victimes d'une prétendue insolvabilité
oui.
des États dits souverains.
Voilà.
Donc c'est aux États souverains, c'est aux hommes d'État d'avoir le courage de lever les hypothèques qu'ils ont créées par une forme d'indécision et par, une forme d'inquiétude qu'ils ont laissé se généraliser. Donc le message que j'entends de la part du vice-président du Cercle Turgot, c'est qu'effectivement la situation est sérieuse, mais qu'elle est sous contrôle et que les peurs irrationnelles n'ont pas lieu d'être dès lors que notamment les banques centrales sont aux manettes.
Oui, si on fait ce qu'il faut, si on va vers davantage de fédéralisme européen, si on arrive à restructurer nos États et notamment à baisser leurs dépenses et si on recapitalise un peu le système bancaire, tout ira bien et à la limite on en sortira renforcé. Si on ne le fait pas, évidemment, c'est une autre histoire.
Bon, mais écoutez, nous allons conclure sur cette note optimiste. Rien n'est perdu, le pire n'est jamais sûr, mais il est temps d'agir de façon concertée en Europe.
Absolument.
Nicolas, merci mille fois
merci
et
à
notre prochain rendez-vous donc, du Cercle Turgot. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. À bientôt. Au revoir, Nicolas.